J'ai refusé totalement cette
Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous à travers parole aux auditeurs, votre émission 100% interactive de Radio Capi. Ce vendredi 2 décembre 2011, la situation des personnes vivant avec handicap est au centre de notre émission. C'est là, en marge de la célébration, le 3 décembre prochain, de la Journée internationale des handicapés. Notons qu'en 1992, à la fin de la décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, et par sa résolution 47/3, l'Assemblée générale a proclamé le 3 décembre Journée internationale des personnes handicapées. Au cours de cette décennie, des mesures avaient été prises pour sensibiliser davantage les populations et améliorer la situation des personnes handicapées et leur permettre de bénéficier de mêmes chances que les personnes valides. Par la suite, l'Assemblée a demandé aux États membres de mettre l'accent sur la célébration de cette journée afin de renforcer l'intégration des personnes handicapées dans la société. En RDC, l'article 49 de la Constitution prévoit la mise en place de mesures spécifiques de protection des personnes handicapées ainsi que la promotion de leur présence dans les institutions nationales, provinciales et locales. Que proposez-vous pour faciliter à ces personnes l'accès aux différents services dans la société? Parole aux auditeurs invités pour vous, Maître Irène Essambo, présidente de l'ONG La Voix des Handicapés pour les droits de l'homme. Marie Chantal Lumba, Justine Nyanga, Clovis Louboula sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Jean-Claude Tiara. Pierrot et la mesure de la présence et la supervision de Nicole Ngata, fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par Internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
La situation des personnes vivant avec handicap est au centre de notre émission de ce jour. Et par rapport à cela, l'Assemblée générale des Nations Unies, comme je l'ai dit, qui a proclamé le 3 décembre de chaque année comme une journée de sensibilisation pour que ce soit les autorités, que ce soit les associations puissent prendre en compte la situation des personnes vivant avec handicap et leur permettre de pouvoir accéder aux différents services à travers le pays, mais aussi de pouvoir leur permettre, comme prévoit l'article 49 de la Constitution, de mettre la mise en place des mesures spécifiques de protection des personnes handicapées, ainsi que la promotion de leur présence dans les institutions nationales, provinciales et locales. Mais bien avant que nous puissions aller loin et ouvrir notre débat de ce jour à travers l'émission Parole aux auditeurs sur les personnes vivant avec handicap, mais nous allons faire avec vous la mise au point, comme vous l'avez suivi ce matin à l'ouverture du journal de Radio Capi le matin, par rapport à au souci de la population de voir Radio Capi publier progressivement le résultat progressif des élections qui se sont tenues le 28 novembre dernier. Radio Capi a fait une mise au point ce matin pour dire qu'elle reste son travail en se basant sur les textes juridiques qui donnent à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, le seul pouvoir de publier les résultats provisoires des élections. Alors, Radio Papi qui adresse là à tous les auditeurs pour dire qu'ils s'en tirent parce que les textes juridiques disent par rapport à votre souci de voir Radio Papi vous publier ces résultats, mais qui n'attend que la date prévue par la loi, à savoir le 6 décembre prochain pour la publication par la bouche autorisée qui est tellement la Commission électorale nationale indépendante. Et pour tous les auditeurs qui voudraient là-dessus, et c'est ainsi que la Radio Papi vous a fait cette mise au point. Mais en attendant que nous puissions revenir pour parler des personnes vivant avec handicap, on a des petits soucis peut-être avec notre ligne de téléphone. Des fois, s'il arrive que nous ne puissions pas vous joindre facilement, mais gardez votre patience, nous allons vous joindre pour que vous puissiez dégager les pistes de solutions pour permettre aux personnes avec handicap d'être intégrées dans la société et surtout dans votre milieu où vous vivez. Nous avons déjà un auditeur en ligne, c'est Arsène qui est avec Arsène, nous allons venir venir chez vous pour que vous puissiez commenter avec nous ensemble ce sujet autour de la prise en charge des personnes vivant avec handicap.
Parole aux auditeurs.
Arsène, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Et avant, peut-être que vous puissiez donner des propositions. Quand vous regardez la ville de Cupit, les personnes qui vivent avec handicap, vous savez, les Nations Unies disent qu'au moins 1 milliard de personnes à travers le monde ont un problème de déficit. Et on peut en avoir chez nous, à Kinshasa, à Kananga, à Cupit, à Mbumbashi, à Mbujima et partout, on peut en avoir. Dites-nous comment se fait la prise en charge ou l'intégration de ces personnes à Cupit, bien avant que vous puissiez donner des propositions.
Ok, monsieur. Ici, à Cupit, de notre culture, je crois que les personnes vivant avec handicap sont vraiment très bien prises en charge, bien que nous n'ayons pas assez de moyens, mais je crois que nous faisons un effort. Mais il y a aussi autre chose, l'effort personnel de ces gens qui vivent avec handicap. Oui, il y a des écoles, il y a les Calotins qui ont fait des écoles ici pour ceux qui vivent avec handicap, la MEFARM, ainsi de suite. Mais ils sont quand même bien traités et ils sont respectés. Mais alors, dans tout ça, moi je dirais ceci. À mon avis, je crois qu'il ne faut pas tout le temps rappeler à la personne qui vit avec handicap qu'il est handicapé. Pourquoi ? Parce que quand on vous rappelle un défaut, ça vous donne un sentiment de mépris de soi-même d'abord.
Mmh.
Il faut toujours les encourager à croire d'abord qu'ils sont des personnes vivantes, qu'ils sont des personnes à part entière, des êtres humains qui méritent tout ce que l'être humain mérite. Mais alors, j'insiste sur un point. Moi, je veux dire ceci. La personne qui vit avec handicap, bien qu'il sache qu'il a handicap, quel que soit de quelle nature, la personne doit d'abord se considérer comme être humain. Bon, pour l'intégration dans les institutions, dans les entreprises, ainsi de suite, ça dépend aussi des compétences. Parce que on peut avoir l'handicap, par exemple, un sourd-muet. Vous n'allez pas dire un sourd-muet d'être journaliste. C'est impossible, parce qu'il ne saura pas entendre, il ne saura pas s'exprimer. Mais alors, il faut les orienter. Et là vient la responsabilité de l'État. Parce que moi, personnellement, chers compatriotes, je trouve que l'État perd sa responsabilité. Il faut des gens capables de comprendre que nous sommes une famille unie. Et cette famille ne peut pas se diviser juste pour des considérations physiques.
Mmh.
Alors, dès que l'État comprend ça, je crois que les responsables doivent se gêner pour ne pas avoir investi un moyen conséquent pour nos frères qui ne savent pas produire ce moyen. Parce que si l'État ne le fait pas, qui d'autre le fera ?
Merci.
On va s'incliner, excusez-moi monsieur, on va s'incliner vers des associations, vers des dons. C'est gênant, c'est gênant.
Mm-hmm.
Voilà, c'est un peu mon avis.
Merci beaucoup, Arsène. Vous pensez qu'au-delà de l'orientation, de la prise en charge, il faut que l'État puisse se responsabiliser, mais aussi cela n'empêche que les associations puissent s'en occuper. Nous avons en ligne Aristote qui est à Butembo, mais d'abord nous avons Maître Irène Essambo. Maître, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'ONG La Voix des Handicapés pour les Droits de l'Homme. Nous allons vous garder en ligne, Maître, pour partager ensemble avec les auditeurs de Radio Capi les initiatives qu'il faudrait aujourd'hui pour intégrer les personnes vivant avec handicap. Mais en attendant, écoutons d'abord Aristote qui est à Butembo. Nous allons revenir à vous. Aristote, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi, surtout ceux de l'émission Parole aux auditeurs.
Voilà. Et Aristote, quelle est la situation aujourd'hui des personnes vivant avec handicap à Butembo, là où vous vivez ? Sont-ils pris en charge, aidés, assistés, formés, avant que vous puissiez proposer ? Quelle est la situation ?
Oui. Une chose que je veux dire, monsieur le journaliste, c'est que, bien sûr que je suis à présent à Butembo, mais je suis venu d'ici récemment à Walikale. Donc, c'est la situation de Walikale que je peux connaître, puisque c'est celle de Butembo.
Mmh,
je peux dire que je vais partir par un exemple. Nous étions partis quelque part, parce que je suis défenseur des droits humains, et nous étions partis quelque part à la sensibilisation. Et quand nous étions à l'école, et moi je suis resté parce que nous étions à 5 personnes avec les personnes handicapées. Moi j'étais resté à l'extérieur. Alors là, il y avait quelques handicapés de 2 à 3 comme ça qui se disputaient. Donc, un disait à l'autre que, ouais, ces gens sont en bonne santé, ils sont en bonne forme, ils sont en train de ministrer, et surtout, ils sont en train de se montrer contre nous. C'est pourquoi, moi, je voulais dire qu'il serait mieux que, d'abord, l'État puisse prendre en charge, oui. Allô?
Vas-y, on vous écoute, Aristote.
Oui, l'État puisse prendre d'abord en charge et les responsables, parce que j'ai déjà dit partout, je suis en train de passer que les personnes handicapées sont en association. D'abord, il faut que l'État puisse prendre d'abord les responsables de ces associations en charge pour l'éducation. L'éducation est leur prise en charge, donc leur montrer que ce sont eux-mêmes les personnes handicapées qui peuvent aller sensibiliser les autres et comment ils peuvent se retrouver dans l'humanité ou soit dans des personnes qui ne sont pas handicapées. Parce que le fait là d'envoyer les gens qui sont en bonne forme, en bonne forme d'aller sensibiliser ces gens de que les handicapés, et ça...
Il y a ça crée le sentiment de méfiance, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Il y a des initiatives qui permettent aux personnes avec handicap de pouvoir se sensibiliser. Vous pensez que ça peut plus les rapprocher, ils peuvent écouter le message facilement, que la méfiance, s'ils sont sensibilisés par une personne qui n'a pas le même problème que... Merci beaucoup, Aristote de Boutembo. Nous allons revenir à vous, Maître Irène. Vous avez suivi les auditeurs. Mais bon, d'abord, nous faisons le point hein, par rapport à l'intégration des personnes avec handicap, ça marche de la célébration de cette journée qui leur est dédiée demain, samedi, le 3 décembre. Et vous qui travaillez depuis longtemps sur le terrain dans la défense des droits des personnes vivant avec handicap, comment évaluez-vous la situation de ces personnes en RDC? Y a-t-il eu d'amélioration en ce qui concerne leur prise en charge et leur intégration, Maître Irène?
La situation est très mitigée dans ce sens que sur le plan théorique, je peux dire qu'il y a quelques avancées qu'on a enregistrées, mais sur le plan concret, c'est-à-dire dans la réalisation de ce qui a été accepté au niveau des lois, etc., il n'y a rien qui est fait sur là. Et même au niveau de ces lois, je dirais que par rapport à la Constitution, nous avons des dispositions qui sont très favorables, mais qui appelle à ce qu'on prenne encore d'autres dispositions, notamment une loi organique qui va détailler comment se fera l'intégration des personnes vivant avec handicap. Mais depuis que la Constitution a été promulguée jusqu'à aujourd'hui, cette loi organique n'a jamais été prise par le Parlement.
Et est-ce que le problème c'est seulement d'avoir cette loi ou le problème aussi réside dans une politique, même si la loi n'existe pas encore, mais est-ce que le problème aussi n'est-il pas dans la politique définie pour les personnes vivant avec handicap en attendant bien sûr qu'on puisse avoir cette loi?
Oui, en fait quand je parlais de la situation théorique, je parlais plus de loi, mais au niveau des politiques et des programmes, en tout cas, il n'y a rien qui est fait jusque-là. Il n'y a pas de politique nationale par rapport à l'intégration des personnes handicapées, même pas de programme. Donc, il y a beaucoup à faire.
Voilà. Maître Irène, on vous garde en ligne pour écouter les autres auditeurs qui ont aussi des propositions, parce qu'il y a autant de questions que nous allons partager ensemble. Nous avons Alain qui nous appelle de Demba au Kassa Occidental. Alain, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous.
Oui. Alain, on a des petits soucis avec votre ligne de téléphone. Que pensez-vous qui puisse être fait pour faciliter l'intégration des personnes vivant avec handicap dans la société, Alain?
Oui, en tout premier lieu, messieurs les journalistes, je suis demande de me permettre de vous parler de mon cas qui vous concerne, C'est que je suis l'agent de l'AFCAM et c'est le ministère de vie. J'ai été en mission de service. Mais j'avais eu quelques tortures avec les policiers de notre gouvernorat. Et je suis aujourd'hui handicapé. Je n'ai pas eu ni l'assistance, ni quoi de mon service. Et aujourd'hui, je suis abandonné dans ce service-là. Donc, on a fait le mise en place, on a commencé à payer les agents. moi je ne suis pas payé. Je suis vraiment désolé de vous dire ça. Et aussi, je vais continuer de dire, tout homme qui vit avec un handicap, ou soit une personne vulnérable, il n'est pas considéré dans la société ici chez nous au Congo, parce que on doit l'utiliser étant comme un animal, étant comme une chose qui ne sait pas comment défendre son droit. C'est ça ce que je pose à notre invité du jour, afin qu'il puisse donner la réponse.
Merci Alain, vous dites que vous travaillez pour le CESCAM, c'est un service hein, qui s'occupe de l'encadrement de l'exploitation artisanale de minerai. Alors vous étiez en mission et de cette mission vous avez eu un accrochage, un accident qui a fait aujourd'hui vous avez un handicap, mais malheureusement vous êtes abandonné à vous-même. Mais on pourra vous demander à notre invité ce qu'il faut faire parce que vous vous rendez compte que beaucoup de gens stigmatisent les personnes vivant avec un handicap. Merci beaucoup Alain Dendemba au Castel Occidental. Nous avons Steve qui est en Bandaka et dans la province de l'Équateur. Bonjour Steve. Steve, vous êtes en ligne, bonjour. Finalement, on a des petits soucis avec la ligne téléphonique. Nous allons revenir à vous, Maître Irène. On a évoqué ces problèmes de la stigmatisation des personnes vivant avec handicap au niveau de la société, certainement même au niveau même de la famille. Mais bien avant que les gens puissent intégrer les autres, quels sont les efforts qui sont fournis d'abord à ce niveau-là de la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec handicap? Est-ce que le message, les gens sont réceptifs à ce message pour leur permettre un accès aux services? Il faudrait d'abord qu'on puisse enlever les préjugés au niveau de leur handicap. Au niveau de la société, quand vous êtes sur le terrain, quand vous travaillez, pensez-vous vraiment que la société congolaise elle est réceptive à ce message de lutte contre la stigmatisation de ces personnes, Maître Irène?
Oui, je dirais que la société congolaise est respectée par rapport à ces messages parce que depuis nous avons eu l'offre milité pour que la constitution puisse intégrer la question des personnes handicapées par exemple, nous avons eu l'appui de plusieurs autres personnes qui sont venues accompagner l'action des personnes handicapées et même soutenir cette action, et notamment les groupes de femmes et même les jeunes qui ont soutenu. Donc quelque part, la société est en train d'évoluer de manière à pouvoir accepter ces personnes. Mais il y a aussi beaucoup à faire par rapport à la coutume. Vous savez que nous sommes une société où la coutume a beaucoup d'influence sur la mentalité et même sur la manière de vivre de tout le monde. Alors il y a des coutumes, il y a des endroits dans notre pays où par exemple, si vous avez un enfant avec un cancer, ça peut être une cause de divorce, ça peut être cause de mésentente au niveau de la famille, parce qu'on considère que ça peut être soit un mauvais sort, une malédiction et tout ça. Donc cette conception-là joue beaucoup dans la stigmatisation des personnes handicapées, mais également le fait que la société congolaise est profondément pauvre. Alors vous voyez, la personne handicapée, surtout un enfant, et c'était vraiment une charge. Si la société n'arrive pas à pouvoir la prendre vraiment, prendre tous ces besoins en charge, et souvent même au niveau des familles, il y a des fois où on délaisse cet enfant parce qu'on trouve qu'elle est plus une charge qu'elle pourra produire dans l'avenir. Donc, c'est un peu toutes ces considérations-là qui font que, quelque part, il faut encore beaucoup de travail de sensibilisation. Mais le fait que nous avons quand même une constitution qui met en exergue cette question pour dire que la personne handicapée doit être intégrée à tous les niveaux de la gestion de l'État, ça a apporté déjà quelque chose pour que les gens comprennent que c'est une personne comme tout autre. Mais il faut encore beaucoup de travail de sensibilisation.
Voilà. Et d'ailleurs, hein, si on suit bien la définition, on a toujours dit que nous tous, on est le handicapé. Il faudrait peut-être que les gens parviennent à intégrer cette conception dans leur vie. Ça peut aider les uns et les autres à pouvoir changer leur conception. On vous garde, Maître Irène. Nous avons Ludovic qui nous appelle de Kananga au Cas-Occidental. Ludovic, gardez la ligne, nous allons revenir à vous. Appelez-nous au 081-893-15-081-893-15. C'est pour les appels en direct sur les antennes, mais par SMS. Vous pouvez également nous écrire hein, au 081-684-7307, 081-684-7307. Mais vous pouvez aussi, vous qui avez accès à l'Internet, vous pouvez nous envoyer un message électronique en proposant vos points de vue, vos solutions au APA@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Ludovic, vous êtes en ligne des Kananga au Kassa Occidental. Bonjour.
Bonjour, Radio Kati. Je suis très content de m'avoir accordé cette opportunité pour que j'exprime aussi vraiment la chaîne.
Allez-y, on va vous écouter.
Premièrement, je commence par le présenter. Je vous dis que moi-même, je suis handicapé physique et c'est membre FR. Et pour cet effet, je vous dis que je suis étudiant en première licence économie. Voilà. Donc, pour faire un point de rappel sur tout ce qui se passe, c'est la personne vivante avec handicap, je vous dis que monsieur le journaliste, au Kassai occidental, la personne vivante avec handicap est marginalisée sur tous les points.
Mm-hmm.
En commençant tout d'abord par votre famille, vous trouverez qu'il y a un enfant qui est handicapé. Lorsqu'un visiteur arrive à la maison, on peut présenter ceux qui sont normaux et celui qui est parfait handicapé physique n'est pas présenté. Voilà, et comprenez tout d'abord au niveau même de la famille. Mais quand vous allez à l'école, ce sont les amis. Ah, donc, qui sont aussi à l'école, mais quand un handicapé est à côté d'eux, on ne sait pas les supporter. Il y a certaines tâches que l'handicapé ne peut pas faire, qu'on doit les secourir, mais on n'arrive pas à les faire. Mais là, il y a aussi la tâche vraiment que l'autre État ne faut pas prendre en considération non plus. Du fait que l'homme vivant avec handicapé, donc, n'a même pas ou pas même de privilèges. S'il doit payer le frais à l'école, il paye comme tout le monde. Donc, s'il faut qu'on puisse même l'encourager s'il faut des bons résultats à l'école. Donc, on ne parle seulement bien, dans les milieux professionnels. Donc, celui qui est handicapé, n'était pas, si vous regardez aujourd'hui dans les fonctions publiques, trouver quelqu'un qui vit avec un handicap physique et le trouver dans une fonction de commandement, c'est tout un problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas des gens qui peuvent le couvrir. Donc, comprenez que l'handicap physique est marginalisé. Nous demandons seulement à l'État que l'État prenne ses responsabilités pour l'intégrer vraiment dans la société actuelle. Voilà vraiment ma préoccupation.
Merci beaucoup, Ludovic. Hein. Courage à vous. Vous êtes en première licence économie à Kananga. Et ça, c'est important, l'interpellation, en commençant bien sûr, comme venait le dire notre invité, Maître Irène, en commençant bien sûr par la famille, au niveau de l'école, au niveau de la société, il faut faire ce travail de fond, de sensibilisation pour bannir la stigmatisation. Merci beaucoup, Ludovic, et bonne journée à Kananga, au Kassai Occidental. Joël, vous êtes à Kongolo, dans la province du Katanga. Bonjour, Joël. Joël, vous êtes en ligne, bonjour. Là, désolé, aujourd'hui, on a des petits soucis avec nos lignes téléphoniques. On va peut-être avoir beaucoup de problèmes à vous avoir, mais n'oubliez pas de nous appeler d'ici aussi, de rester plus patient. Le temps que votre ligne puisse passer, on pourra bien vous faire intervenir. José, vous êtes en ligne de Bouche-du-Mail au Kassai Oriental. Bonjour, José. Et José, vous êtes en ligne, bonjour. Et là aussi, on vient à peine d'avoir José sur les antennes, on l'a perdu. Nous pensons que Maître Irène, vous êtes encore là.
Oui, je suis là.
Merci que votre ligne ne puisse pas poser de problèmes. Vous avez suivi Ludovic de Kananga. Il y a un auditeur au début qui a pensé qu'il faudrait d'abord faire un travail de sensibilisation entre les personnes vivant avec handicap pour leur permettre d'aller vers les autres. Pour lui, il a fait ce travail, il s'est rendu compte qu'il y a un problème de méfiance quand les personnes qui vivent avec handicap sont sensibilisées par ceux qui n'ont pas d'handicap. Il y a tendance à voir cette méfiance-là. Pensez-vous que le travail fait d'abord au milieu des personnes qui vivent avec handicap peut être plus efficace quand ils pourront sensibiliser les autres ou soit eux-mêmes sensibiliser ceux qui n'ont pas des problèmes d'handicap, Maître Irène.
moi, personnellement, je ne trouve pas un problème que la sensibilisation soit faite par une personne handicapée ou par une personne autre. D'autant plus que nous sommes dans une société où nous sommes appelés à vivre ensemble. Maintenant, ce que je peux comprendre, c'est que lorsque une personne handicapée, moi-même, je crois que je suis une personne handicapée, lorsqu'il m'arrive de sensibiliser sur celles qui sont comme moi, qu'elles comprennent, parce que j'ai vu la même situation qu'elles et que je suis à même de comprendre les problèmes qui se posent par rapport à leur vie. Mais cela n'explique pas que tout ceci a accepté le message qui vient d'une autre personne. D'ailleurs, ça fait du bien pour qu'on puisse voir que les autres s'intéressent à nos problèmes et on peut être ensemble. Seulement, moi, je dirais qu'il faut faire attention lorsqu'on lutte contre la marginalisation. Parce qu'il y a une manière de se marginaliser soi-même et une autre manière d'être marginalisé par les autres. Il faut considérer que c'est mieux que les personnes handicapées soient sensibilisées uniquement par eux-mêmes. En tout cas, je pense que c'est une manière de les stigmatiser aussi. Le mieux aurait été que ça se fasse comme lorsqu'on milite pour la question de la femme. C'est pas seulement la femme, bien que la femme prend le devant, mais c'est mieux que les hommes s'impliquent dans le combat de la femme. Donc, c'est mieux aussi que les personnes censées être valides s'impliquent dans la vie contre la marginalisation des personnes handicapées, ça fait du bien.
Voilà, merci beaucoup, maître. On vous garde en disant de toujours nos auditeurs que nous avons des petits soucis, mais nous finirons toujours par vous avoir dès que votre ligne est disponible au 081-890-7315.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
En marge de la célébration de la journée internationale des personnes vivant avec les handicaps, c'est demain, c'est samedi 3 décembre. Parole aux auditeurs de ce jour, c'est pas juste la situation des personnes avec handicap à travers le pays. Et nous vous accordons la parole pour qu'ensemble nous puissions formuler des mesures qui peuvent leur permettre d'avoir accès aux différents services à travers le pays. D'ailleurs, au niveau du ministère des Affaires sociales, plusieurs manifestations devaient être organisées en marge de cette journée. Mais bon, compte tenu de programmes, d'autres programmes, ces manifestations qui intéressaient beaucoup plus aussi les personnes avec handicap et ceux qui les encadrent, elles sont reportées à une date ultérieure. Peut-être qu'on pourra en parler pour voir du côté du ministère comment les choses sont organisées pour venir en aide à ces personnes. Mais ces manifestations vont avoir lieu à une date ultérieure. Et nous avons aussi en ligne Marie-Cécile. Marie-Cécile, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente chargée de communication de l'ONG Vie Nouvelle. Vous militez vraiment dans l'intégration, la prise en charge des personnes qui vivent avec handicap ici à Kinshasa et peut-être aussi à travers le pays. De par votre expérience dans votre ONG, votre structure, pensez-vous vraiment que la situation s'est beaucoup s'est améliorée ou il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire aujourd'hui pour l'intégration des personnes avec handicap?
Maintenant, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Parce que jusque-là, les personnes handicapées se croient vraiment moins utiles que les autres pays. Ça, c'est pas bon. Les autres pays, on montre à quel point que les personnes handicapées ont leur place. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. C'est à peine qu'il y a une personne qui a un formulaire qui est licencié en droit. Pourtant, c'est pas possible. D'ailleurs, on voit plein d'handicapés qui ont des diplômes, mais ici, c'est pas le cas. Ça, c'est vraiment un gros effort à faire pour l'éducation et la formation.
Et vous avez dit qu'il y a un gros effort. Beaucoup de leaders sont revenus, ils ont chargé l'État dans ces programmes de prise en charge. Pensez-vous que ces efforts, c'est seulement au niveau de l'État, au niveau des structures, au niveau de famille, comment on peut partager la responsabilité de ces efforts, Marie-Cécile?
Ben, en fait, ça commence à la base chez l'État. Parce que si l'État montre avec moi qu'il a une attention particulière envers ces personnes, les autres, le reste du peuple va suivre. Donc, si déjà la base de l'État ne fait aucun effort, si déjà il n'y a aucune école adaptée pour personnes handicapées, il n'y a pas de structure qui convient pour personnes handicapées. Aucun bus, aucun bureau qui a des endroits, des palissades adaptées aux personnes handicapées. Et des étages, des escaliers presque partout. Même à Cécopèque, leur fédération, devant quelque part, c'est l'État. À la base, c'est l'État. Et ensuite, la famille. Parce que la famille aussi a un gros rôle à jouer du point de vue moral. Mm-hmm. Pour savoir montrer à la personne handicapée que même si tu as un handicap, tu peux faire autre chose avec les autres membres, parce que tu as les autres membres qui sont valides.
Voilà, vous avez dit l'État, il y a aussi la famille. On vous garde encore en ligne un peu, Marie-Cécile, le temps d'écouter Maître Irène, parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez été sur terrain plusieurs années pour la défense des droits des personnes handicapées. Mais quand on regarde le rendement, que ce soit au niveau de la société, au niveau de l'école, parce que le préjugé au niveau de la société, comme on l'a dit au début de l'émission, fait aussi que les gens puissent avoir cette stigmatisation. Mais quand vous êtes sur terrain, quels sont les rendements par rapport à un travail accompli par une personne qui vit avec handicap, que ce soit le résultat à l'école, ça dépend aussi des types d'handicap. Quels sont les rendements que vous avez vus qui peuvent permettre aux auditeurs qui nous suivent de savoir qu'à un certain moment, on peut bannir ses préjugés parce qu'il y a des résultats positifs sur terrain, Maître Irène?
Oui, moi je dirais que le rendement des personnes handicapées font beaucoup d'efforts pour s'intégrer et je crois que si vous faites quelques statistiques ou bien des enquêtes pour voir les efforts menés par ces personnes elles-mêmes par rapport à la société, vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup qui partent elles-mêmes se sont rendues utiles à la société. J'ai toujours, dans cette émission, il y en a qui vous disent qu'ils sont des étudiants, il y en a qui vous disent qu'ils travaillent dans les ONG, et moi-même, là, je suis une avocate. Moi, je comprenais qu'il y a une prise de conscience, mais cela ne suffit pas, parce que être handicapé dans une société comme la nôtre, c'est pas facile, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Mais aussi, il y a des familles qui finalement ont compris que on peut, en aidant un enfant handicapé à pouvoir étudier, c'est aussi un investissement. Ce n'est pas toujours une dépense inutile comme on l'a toujours pensé. Et il y a des personnes handicapées qui ont compris aussi que ça ne sert à rien de toujours tendre la main vers les autres, mais aussi pour sa propre dignité, faire quelque chose de se rendre utile à la société. Mais cela ne dit pas qu'il y en a d'autres qui vraiment sont encore au bas de l'échelle, c'est-à-dire que qui ne font presque rien. Et cela, parfois, ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils n'ont pas trouvé un bon encadrement, ils partent de leur famille, de la société, etc. Je suis un peu stupéfaite quand vous dites que le ministère des Affaires sociales aujourd'hui avait prévu des assistés par rapport à la commémoration de cette journée de, internationale des personnes handicapées, et que cela a été
reporté à une date. Oui,
donc, ça donne déjà une idée de la conception, de la considération qu'on a de ces personnes. Quand bien même nous sommes dans une période électorale, cela ne veut pas dire qu'on doit mettre de côté d'autres choses. Mm-hmm. La question des personnes handicapées aujourd'hui, en Europe, c'est moi, j'ai mené des enquêtes sur la Banque mondiale en 2004. Et à ce moment-là, le ministère de la Santé, à l'époque, avait sorti les statistiques disant que par rapport à la FDC, 10% de la population était atteint d'un certain handicap. Nous, quand vous regardez les choses, ça c'était en 2003. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2011. Avec toutes les guerres, toutes les périodes, catastrophes naturelles, etc., que le pays a connu, moi je crois qu'il y a une augmentation sensible de ces personnes. Et qu'aujourd'hui, on puisse remettre à une baisse supérieure les activités qui sont qui concernent ces personnes, moi je trouve que c'est une manque, c'est vraiment un manque de considération par rapport à cette catégorie de personnes.
Voilà, on vous garde en ligne, nous allons revenir à vous, Marie-Cécile, avant de pouvoir vous libérer. La Constitution, dans l'article 49 de la Constitution, prévoit bien sûr qu'il y ait une loi organique qui pour permettre la mise en place des mesures spécifiques de protection des personnes vivant avec handicap. On existe beaucoup sur la représentation de ces personnes au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Et bien avant que la loi puisse être mise en place, Marie-Cécile, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre quand même d'avoir les personnes avec handicap hein, dans les différentes institutions, parce que cela aussi est plus important.
Oui, bien, pour les savoir, il faudrait commencer par les formes. On ne peut pas mettre quelqu'un quelque part pour faire un travail qui n'a aucune formation.
Mm-hmm.
Nous, par notre expérience, on essaie de former certaines personnes et on remarque qu'ils fournissent plus du temps parce qu'ils veulent montrer à quel point ils peuvent faire quelque chose. Donc moi, je trouve que si ils sont handicapés, une fois formés ces personnes, ils ne sont pas de faire de grandes choses encore plus que les personnes qui sont voyées, parce que nous, on est bien d'ordi qu'on n'a rien à prouver. Les personnes qui ont un handicap, ils disent qu'ils ont beaucoup plus à prouver, donc ils donnent le meilleur de même chose qu'ils ont un travail à faire. Donc, c'est la base, l'encadrement dépend de nous. Ça dépend de nous qui encadrons les handicapés et puis l'État. Parce que donner du travail, d'accord, mais si c'est rien faire, comment il va se déposer dans un bureau? Ben, c'est se moquer de lui, quoi. C'est une manque de considération.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Marie-Cécile, hein, pour ce témoignage, surtout cette précision. Il faut la formation, c'est d'abord quelque chose de plus important. Et puis, quand la personne est formée pourra avoir le travail, nous avons José qui nous appelle de Lubumbashi. José, vous êtes en ligne, bonjour. José, bonjour. Assurément, on aura eu beaucoup de difficultés aujourd'hui avec notre ligne téléphonique et pour pouvoir vous joindre et commenter avec nous ce sujet autour de la promotion et l'intégration des personnes handicapées. Les numéros de SMS 081-684-7307, c'est juste pour envoyer les SMS, bien, ne vous appelez pas par ces numéros de téléphone, mais si vous avez besoin d'intervenir en direct, c'est le 081-190-6315.
Parole aux auditeurs.
Et maître Irène, vous avez suivi ce problème de la formation. On sait que dans beaucoup de villes, on a beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, pour ces écoles de formation. Mais le problème aussi, c'est qu'on a aussi beaucoup de difficultés pour avoir les personnes qui sont formées pour encadrer les personnes vivant avec handicap. C'est là, ça aussi, c'est un problème. On peut avoir des écoles, mais on ne voit pas aussi dans beaucoup de villes des personnes habilitées à encadrer et former ces personnes, que ce soit n'importe quel métier, à tout dépend. En dépendant bien sûr de son handicap. C'est moi qui viens de parler, oui.
Mm-hmm. Oui, je suis allée. Mm. Je crois que ce problème se pose, c'est parce qu'il n'y a pas un afflux conséquent. Parce qu'aujourd'hui, je crois que notre pays a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de personnes qui ont appris de métier, que ce soit dans les centres de formation ou même dans les écoles appropriées. Il y en a qui peuvent encadrer ce genre de personnes. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que les institutions chargées de l'encadrement des personnes handicapées n'ont presque pas de financement. L'État est presque démissionnaire de ce côté-là. Alors, vous comprenez, il faut retourner à l'étranger, le financement des partenaires étrangers pour la plupart des gens. Ou même, il y a des personnes handicapées elles-mêmes qui essaient de s'organiser et de chercher des personnes qui peuvent les encadrer. Et ça demande beaucoup de moyens. Et les gens qui trouvent qu'ils n'ont rien à gagner de ce côté-là, ne veulent pas se donner. Mais dire que c'est compliqué, non, c'est un problème de financement, un problème de volonté, et volonté politique, je veux dire. Mais je voudrais revenir un peu par rapport à la question que vous avez posée à Madame Cécile concernant la loi organique. Je dis qu'aujourd'hui, il faut voir la question de l'intégration de la personne avec handicap, pas seulement par rapport aux aspects humanitaires, mais il faut aussi voir cette question-là en rapport avec la politique. Parce que je trouve que moi, je suis de ceux-là qui ont milité pour que la Constitution intègre la question des personnes handicapées. Et même, j'ai eu à élaborer un draft des lois organiques qui est en souffrance au Sénat en ce moment.
Oui, effectivement, j'allais dire ça d'ailleurs, la loi est en souffrance au Sénat d'ailleurs. Oui,
oui au Sénat. Je suis de ceux qui ont élaboré ce draft. Mais maintenant, le problème, c'est de quoi? C'est pas le problème de pouvoir. Les personnes avec un handicap doivent se retrouver dans les sphères de prise de décision pour qu'elles aussi élèvent la voix par rapport à leur situation. Et comme les cas de femmes, aujourd'hui, les femmes ont compris que les femmes ont compris que ce n'est pas un problème de privilège qu'on cherche ou un problème d'avoir quitté de tout ce que ce soit. Mais c'est un problème de se déterminer, d'être là pour prendre des décisions, de lever la voix pour que les décisions qui sont prises puissent aussi considérer toutes les catégories sociales. Et là, se demande que les personnes en train se retrouvent. Moi, je me dis que la première des choses à faire, il faut que ces personnes se retrouvent, comme la Constitution l'a bien dit, à tous les niveaux de la gestion de l'État, au niveau national, provincial et local. Et avec ça, elle veut parler des problèmes qui les concernent et les décideurs dans leur ensemble vont pouvoir prendre des décisions et planifier des actions qui peuvent aider dans l'encadrement et dans la promotion des droits des personnes handicapées.
Et Maître Jeanne, si nous partons de ce que vous avez dit à l'introduction de l'émission, qu'il y a ces problèmes de nos coutumes qui ont de l'influence sur la mentalité, sur la vision, sur la stigmatisation. Comment ne pas tomber dans le piège hein, si on milite pour que les personnes avec handicap puissent se retrouver dans l'espoir des prises de décision? Comment ne pas éviter de tomber dans les pièges d'un bras de fer entre les personnes qui n'ont pas d'handicap, mais qui sont effectivement dominées par ces préjugés sociaux, c'est ce problème de nos coutumes, et quand ils vont se retrouver dans ces sphères de décision, comment éviter de ne pas tomber dans les pièges d'un bras de fer, où on se rendra compte comme si les personnes avec handicap, c'est ça, ils se débrouillent, ils veulent arracher, et d'un côté, les personnes qui ont les préjugés, mais qui se retrouvent dans la même sphère, ne puissent pas utiliser leurs préjugés. Comment ne pas tomber dans ces pièges-là, Maître Irène?
Moi, je me dis que c'est un problème de se battre. On se bat parce que quand vous êtes rentré dans le sphère du pouvoir, personne ne peut vous laisser sa place. Il faudrait que vous puissiez démontrer de quoi vous êtes capable et qu'est-ce que vous apportez de spécial pour qu'on puisse vous accepter. C'est vrai que lorsque les personnes en profession décident d'intégrer le combat pour la conquête d'une portion de pouvoir, c'est un combat au fait tranquillement. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous donne des plats déjà préparés. Il faut se battre. Mais je le dis aussi, il y a aussi un problème de bon sens. La société n'est pas composée que des hommes valides. La société est composée de toutes les catégories sociales, y compris la catégorie de personnes handicapées. Donc, si nous voulons être corrects avec nous-mêmes, nous devons accepter que toutes ces catégories se retrouvent autour de la table et prennent les décisions ensemble. Bien qu'une catégorie doit être mise de côté, parce qu'il y a la question, ce sont des questions négatives. Et ce sont des questions que nous devons combattre. On ne peut pas se prévaloir de ces questions pour mettre de côté qui que ce soit. Donc, ce sont des questions à combattre et évoluer ensemble. Parce que les personnes handicapées ont aussi des potentialités et ont aussi quelque chose à apporter dans la reconstruction de notre pays. Acceptons-les comme tels et nous pourrons ensemble marcher et construire le pays.
Voilà. Il nous reste un quart d'heure pour terminer cette émission. Nous avons Bruce qui nous appelle de Lubumbashi, justement qui est à Lubumbashi. Tous les deux, vous êtes à Lubumbashi. Nous allons revenir à vous pour que vous puissiez commenter ces sujets autour de la promotion des personnes vivant avec handicap.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs.
Bruce de Lubumbashi, vous êtes en ligne. Bonjour Bruce.
Bonjour.
Oui, nous parlons de l'intégration des personnes vivant avec handicap. Vous êtes tous les deux à Lubumbashi, à Bruce, justement, vous allez garder la ligne. Nous sommes encore avec Bruce. Bruce, qu'est-ce qui peut être fait pour faciliter à ces personnes d'avoir accès aux différents services dans la société?
Il faudra réorganiser différents services aptes à pouvoir d'abord à créer des institutions pour les accueillir et essayer d'organiser aussi, des formations pour essayer de les rendre utiles et quasiment que la réintégration soit effectivement évidente en ce qui concerne la réintégration de la société. Mais je voudrais plus évoluer dans un sens plutôt à savoir, à poser plutôt, vous poser une question, surtout à la femme qui est au bout du fil. Je voudrais bien savoir si j'ai suivi des émissions précédentes où on a essayé de parler de la stigmatisation à propos du démocrate argument. Oui. Alors, j'aimerais exactement me pencher un peu à savoir si l'albinisme entre aussi dans les cadres des handicaps tels qu'on est en train d'aborder les sujets présentement-là. Est-ce que l'albinisme constitue réellement un handicap aussi parce que ces gens-là, tels que nous le savons, sont aussi sujets de stigmatisation dans tout ce qui se passe dans notre société. J'aimerais un peu poser cette question à
Maître Grène. Voilà. Merci beaucoup, Bruce. Nous allons poser la question à Maître Grène de savoir si les personnes à peau pigmentée ou les albinos sont aussi considérées dans la catégorie des personnes vivant avec handicap parce qu'ils subissent aussi beaucoup de stigmatisation dans la société. Maître Grène pourra nous répondre à cette question. Nous restons à Lubumbashi avec Justemo. Bonjour.
Bonjour, Pierre.
On vous écoute, justement.
En tout cas, moi, je vais d'abord commencer à tourner ce chronom avec deux facteurs, donc deux problématiques. Il y a la famille ensuite qui est l'État. En comptant avec la famille, j'essaie dans toute forme de famille de voir si la personne qui est avec un handicap physique est marginalisée dans sa propre famille. Donc, s'il s'agit de payer certainement les habits tous nos enfants, lui, on ne paye pas pour lui. Et si la personne peut être intelligente, mais ensuite, à sa maladie, il peut être à l'école, on ne paye pas pour lui. En famille. Il est peut-être marginalisé par certains enfants à l'école, tout ça. Et certainement, il y a aussi au fond des coutumes qui se posent. Donc, ces coutumes disent ceci. Comme il a cette maladie, comme il a un handicap, il est sorcier. Pourquoi payer la personne on lui parle, on est en train de l'épargner dans la famille, et par après, il va s'entrer dans la rue en train de manger. Parce qu'il est handicap, en train de manger en vie par-ci, par-là, les gens l'incitent, tout ça, ils veulent des sorts, puis non, ils s'attendent, ils attendent qu'ils sont comme ça, parce qu'il y a des sorciers, tout ça, et la personne s'en frustrée. Alors, avec l'État, je me rends compte que notre pays jusqu'à présent n'a pas encore compris qu'il y a aussi vu de leur droit. Quand votre invité dit que ces personnes, il y avait des lois qui devront être votées par le ministère, mais jusqu'à présent, cela a été pour qu'un d'autres supérieur. Donc, on comprend à quel point votre pays est en train de mobiliser certaines personnes. Parce que la France qui est avec handicap, c'est un citoyen qui a droit à tout, qui doit aussi jouir de ses droits en tant que c'est un Congolais. Moi aussi, le gouvernement qui prévient certaines histoires, moi, il y a ces gens qui vivent péniblement, qui souffrent tellement comme ça, le gouvernement qui dit qu'il faut reporter leurs droits, en d'autres, en fait, le ministère puisse voter ses droits, mais il dit non, on va voter ça en date ultérieure. Donc, on comprend que ces gens sont tellement marginalisés dans notre société. Alors, justement, demander à notre gouvernement, il faut en fait que ces droits soient votés le plus possible, en fait, que ces gens puissent se retrouver aussi dans notre société, que ces gens aussi, sont aussi, normalement, considérés comme des Congolais. Comme l'autre qui a appelé à Dumba, comme un gars qui a dit, qu'il a été, qu'il a subi pendant une telle situation, qu'il travaille à la fiscale, moi, jusqu'à présent, son entreprise n'a pas pris en charge ses frais, il est toujours resté comme cela abandonné. C'est pour donner l'État est en train de nier cette personne-ci. Alors, je vais poser une question à votre invité, savoir est-ce que les personnes qui ont encore avec un handicap jouissent encore de leurs droits. Parce que je me rappelle, dans les années 80, je vais ainsi voyager gratuitement. Je me rappelle, ces gens vont voyager gratuitement, mais aujourd'hui, c'est que ces gens-ci sont en train encore de le faire, voyager dans les services centraux de l'État, comme le NATRA, la SNCC, est-ce que ces gens jouissent encore de leurs droits de voyager gratuitement dans les services centraux de l'État?
Merci, justement. D'ailleurs, la mise au point par rapport à ce que nous avons dit autour de la loi et des manifestations, la loi, comme l'a dit l'invité, c'est le draft a été déposé au bureau du Sénat, c'est là où on a dit que la loi sur la loi organique par rapport aux droits des personnes vivant avec handicap est en souffrance au Sénat, mais les manifestations sont au niveau du ministère des Affaires sociales. Comme la journée est célébrée demain, samedi 3 décembre, on devait avoir des manifestations, mais compte tenu de notre programme, le ministère a dû reporter ces manifestations à une date ultérieure, et vous vous êtes aussi inquiété comme notre Irène, qu'on puisse vraiment reporter ces manifestations, et pourtant ça devait être pris et considéré un peu plus rapidement. Nous avons Théodore qui est en Boujumaï, mais nous avons aussi ces messages de Taquet chez Delphin qui dit ceci, ce n'est pas toutes les personnes vivant avec handicap qui sont marginalisées. Nous avons constaté que les handicapés veulent se sensibiliser eux-mêmes. C'est là, n'est-il pas une forme de discrimination quand ils voudraient se sensibiliser entre eux-mêmes? Catherine Adegoma dit ceci, je me demande qui doit prendre en charge les militaires handicapés parce qu'ils sont nombreux avec leurs familles devenus des mendiants dans les rues de Goma. Pourtant, ils ont servi sous le drapeau. Théodore de Mbujimayi et Félix de Kinshasa, gardez la ligne, nous sommes à vous. Je ne sais pas si aussi Maître Irène est revenu parce qu'on l'avait perdu à un moment là. Maître Irène est déjà sur les antennes. Mais nous allons écouter Théodore, Frédéric, et pour revenir à Maître Irène, et on s'en va vers la fin pour conclure cette émission.
Parole aux auditeurs.
Oh, Théodore, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Mbujimayi au Kassai-Oriental, on tend vers la fin de l'émission. Vous êtes l'avant-dernier auditeur de cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce qui peut être fait au-delà de toutes les propositions pour l'intégration des personnes vivant avec handicap?
Vraiment, comme je n'ai pas assez de temps, pour moi, je trouve que l'État doit avoir une attention soutenue, à mis d'un bon encadrement par la construction des centres de formation professionnelle qui peuvent les amener à être embauchés sans beaucoup de difficultés. Il faut aussi renforcer les structures de coordination à tous les niveaux, de la mise en œuvre du système pour leur intégration dans la société. Et puis, élaborer aussi des études d'impact socio-économique pour ces catégories de personnes. Pour terminer, il faut aussi, parmi ces personnes avec handicap, il y a des chômeurs, il y a les hommes sans famille, il y a les hommes en uniforme, les policiers militaires, on doit leur prendre en charge médicale, et les suppléments alimentaires.
Merci. Merci beaucoup, Théodore de Mbujimayi. Nous terminons avec une affaire de Frédéric. Bonjour.
Bonjour, Frédéric, vous écoutez.
On y va. Vous avez une minute et demie, Frédéric, pour commenter avec nous ensemble les propositions que vous avez et pour l'intégration des personnes vivant avec handicap.
Oui, l'intégration des personnes vivant avec handicap. Parce que j'étais en train de suivre la maître Irène, une dame que je connais très bien, qui travaille d'ailleurs avec moi au niveau de l'handicap international.
Oui.
Mais en fait, pour intégrer la personne handicap, la personne vivant avec handicap, il faudra d'abord que la personne elle-même comprenne son état de son état physique. Et les deux, ayant compris un peu le problème, qu'il essaie un peu de lutter. Et ce n'est pas seulement avec notre état congolais qui va s'intégrer. Non, en réalité, il faudra que la personne elle-même mène un combat pour que l'État puisse comprendre et l'accepter dans la société. Et c'est comme ça que nous sommes en train de lutter, nous sommes du réseau de comités de réadaptation communautaire. Nous prenons un peu les enfants dès le bas âge, c'est 0 à 14 ans, et on lutte pour que ces enfants soient acceptés dans les écoles. Et nous avons 12 écoles, on peut au moins à Kinshasa, où on met un peu le conditions d'accueil. On demande à ce qu'il y ait vraiment des conditions d'accueil pour ces enfants en situation de handicap qui ne doivent pas toujours être marginalisés.
Voilà, merci beaucoup Frédéric Constant, que vous aviez d'ailleurs beaucoup de choses à nous dire, mais malheureusement, on n'a pas le temps, on va terminer par là. Nous avons le message de Dieu, merci des Caminants. J'ai constaté que les personnes avec handicap ont des problèmes pour trouver des amis, ou même un amoureux ou une copine. C'est vraiment difficile, nous devons nous battre pour mettre fin à cette stigmatisation. Mohamed, qui est journaliste de la radio Bangou de Kinshasa, dit ceci, je crois que les Congolais doivent imposer une bonne politique de réinsertion sociale, créer un cadre de concertation pour revaloriser toutes ces personnes, par exemple mettre en place des centres d'apprentissage selon l'handicap, ce qui leur permettra de se prendre en charge, surtout pour les militaires handicapés qui sont délaissés et devenus demandants. Benjamin Ostongo dit ceci, je pense que l'État doit s'impliquer comme il le fait pour la lutte contre les SIDA, il doit aussi faire de même pour la promotion des personnes vivant avec handicap. Et Irène, parce qu'on va terminer cette émission par là, vous allez avoir la parole pour conclure, mais il y a une question qui vous a été posée par Bruce de Lubumbashi, qui voudrait savoir si les personnes qui ont des problèmes d'albinisme, les albinos, qui connaissent aussi assez de difficultés, des problèmes de stigmatisation, est-ce qu'ils sont considérés aussi comme personnes vivant avec handicap? Et puis, justement, aussi de Lubumbashi a voulu savoir, et il a dit dans les temps, les personnes vivant avec handicap étaient exonérées, ils ne payaient pas le transport quand il s'agit des entreprises de l'État. Mais est-ce que cette pratique continue? Est-ce qu'il continue à bénéficier de cette exonération aujourd'hui? Et cela vous permet aussi de conclure cette émission, je crois bien, dans 2 minutes et demie, si vous êtes sur les antennes.
Oui, je dirais que les personnes albinos ne sont pas des personnes handicapées, mais ce sont des personnes vulnérables et qui sont aussi souvent marginalisées. Donc, ce n'est pas le fait que vous êtes marginalisé que vous êtes handicapé, non. Les personnes handicapées, c'est par rapport aux déficiences dont elles souffrent. Mais ici, en rapport avec la question d'exonération, Je prends par exemple les cas de transport. Les cas doivent exonérer seulement lorsque il a des moyens de transport public. Mais aujourd'hui, même si il y a une exonération sur facture, mais du moment que l'État n'a pas de
moyens de transport
public, oui. Que ce soit au niveau de routière, il n'y a pas de bus qui font les transports publics qui appartiennent à l'État, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas une société d'avion de l'État. Alors comprenez que les privés ont difficile, ils ne peuvent pas accepter. Parce que eux, ils sont des capitalistes, ils font des affaires, ils ont besoin d'avoir des bénéfices. Et quand vous allez vous pointer là-bas pour évoquer une disposition de l'État disant que vous êtes exonéré, ils vont vous demander, l'État donne quoi pour que moi je vous exonère. Donc ce sont des choses qui n'existent pas.
Et en conclusion, dans deux mots, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette journée?
Oui, je dirais que je remercie d'abord la MONUSCO au travers de Radio Okapi qui a permis que nous puissions avoir cette discussion. Et j'aimerais aussi interpeller le gouvernement congolais pour dire que ce n'est pas parce qu'on a autre chose à faire qu'on doit oublier les Français de la population. Donc ça aurait été mieux que le ministère chargé des affaires sociales puisse prendre toutes les dispositions possibles pour que ce ministère et tous en puisse savoir que la date d'aujourd'hui tomberait pendant que nous sommes en processus électoral. Et les dispositions devaient être prises pour permettre qu'il y ait commémoration. Hier, moi j'ai vu, c'était la journée de lutte contre le sida. Et on a fait quelque chose, mais pourquoi ne pas le faire aussi pour les personnes en santé?
Merci beaucoup, maître Irène Essambo. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes présidente de l'ONG, la voix des handicapés pour les droits de l'homme. Et merci à tous les auditeurs qui sont intervenus, tant mieux que mal, aujourd'hui avec un peu de difficulté par rapport à la ligne téléphonique. Nous vous disons tous merci de votre sympathique attention.
Allô? 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 Qui ne répond pas?
On se retrouve le lundi, ça sera le 7 décembre prochain pour une nouvelle émission. Comme vous le savez, ça sera la veille de la date prévue pour la par la Commission électorale nationale indépendante pour la publication du résultat provisoire des élections présidentielles. C'est depuis novembre dernier. Plusieurs messages ont été lancés pour l'acceptation des résultats. Avec vos auditeurs de Radio Capi, qu'est-ce que vous proposez pour l'acceptation des résultats dans un climat apaisé? Soyez nombreux à vous inscrire à pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe qui a produit cette émission pendant toute la semaine, Marie-Chantal Lumba, Claudie Souboula, Justine Nyanga, mise en onde assurée par Jean-Claude Inchala, Pierrot et la Médie. Vous faites un agréable week-end en compagnie de Radio Capi et surtout aussi à Nicole Ndaka qui a assuré la supervision. Au revoir. Thank you.